Bonjour Julien, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour un nouveau podcast sur Cryptost. On se retrouve à l'occasion de ETHCC 6, la 6e édition donc, de cette fameuse conférence à l'occasion de parler donc d'Ethereum, de tout cet écosystème Ethereum. Et tu en fais partie avec le projet que tu as lancé il y a quelques années, Argent, qui est l'un des wallets les plus utilisés à l'heure actuelle, notamment grâce à l'émergence de Starknet, Zcash, toutes les layers 2 d'Ethereum. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Avant ça, j'aimerais que tu te présentes, tu nous expliques un petit peu ton parcours et ce qui t'a motivé à te lancer dans le Web3 et dans les cryptos.
Ok, tout d'abord, merci de me recevoir, impatient de cette discussion. Donc, mon parcours, je suis ingénieur physicien à la base. Et donc, j'ai commencé en fait dans l'académique. Donc, j'ai fait un doctorat en information quantique et en cryptographie quantique. Puis, j'ai continué la recherche aux États-Unis. Et puis, en fait, je suis revenu en Belgique pour lancer un projet de ce qui s'appelle les spin-offs, donc une start-up en collaboration avec l'université dans le monde de l'information quantique. Et donc, ça m'a fait transitionner du monde académique vers le monde de l'entrepreneuriat. Et donc, voilà, j'ai fait deux start-up entre-temps, qui n'ont pas vraiment décollé. Et donc, en 2016-2017, j'étais toujours en contact avec deux de mes anciens collègues d'une université, Itamar et Gérald, qui eux aussi s'étaient lancés dans l'entrepreneuriat et ont fait différentes startups à Londres. Et donc, ils venaient de faire un bel exit sur leur dernier projet. Et donc, voilà, eux cherchaient un nouveau projet dans lequel se lancer. Et moi, je stagnais un peu dans mon dernier projet qui ne décollait pas comme je voulais. Et donc, voilà, on s'est dit que c'était enfin le moment de faire quelque chose ensemble, donc ce qu'on avait envie depuis qu'on avait 18 ans. Et donc, on a commencé un peu à regarder ce qui nous intéressait. Et le blockchain, clairement, est quelque chose qui commençait à prendre de l'ampleur. Et donc, surtout avec Gérald, qui est aussi plutôt technique comme moi, on a commencé un peu à regarder ce qui se faisait dans cet écosystème, à se documenter, vraiment intéressé au départ par la technologie. Et donc, on s'est rapidement rendu compte que c'était vraiment quelque chose d'émergent et d'assez excitant. On a la fibre entrepreneuriale, je pense, depuis le début, mais on était un peu trop jeune pour avoir participé à la bulle du dot-com dans les années 2000. On avait l'impression que c'était justement une nouvelle opportunité qui se créait. Et donc là, on s'est dit, OK, cette fois, on a envie vraiment d'être à la pointe de ce mouvement. Et donc voilà, c'est une technologie qui nous intéressait vraiment. Et donc, on a convaincu Itamar, qui lui est un peu plus PQ business, que c'était vraiment quelque chose qui était passionnant, dans lequel on voulait se lancer. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on a mis le pied dans le monde blockchain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est donc arrivé avec un regard complètement neuf, parce que contrairement à beaucoup de gens, on nous considère un peu maintenant comme des OG, des gens qui sont là depuis longtemps. En fait, moi, j'ai entendu parler de Bitcoin et d'Ethereum bien avant de me lancer dans l'argent. Et au début, j'y comprenais rien et j'ai pas du tout accroché. Je crois qu'on a parlé de Bitcoin en 2014. Et je me suis dit, c'est une technologie pour des geeks, ça n'amènera jamais rien. Et j'ai complètement passé. On va se parler d'Ethereum au moment de l'ICO. Même chose. Je me souviens d'avoir lu le site web. Et il m'a dit, je comprends rien. Je ne m'en ai pas du tout convaincu. Donc on arrivait vraiment en 2017 à tout d'un coup s'être plongé dans la technologie, et là, à comprendre vraiment ce qu'il y avait derrière. Et donc on arrivait avec un regard un peu neuf. Ce qui, je pense, pour moi, est une force, c'est qu'on a vraiment pu identifier des choses que pour nous, il fallait régler autour de l'expérience utilisateur. Et d'avoir ce regard neuf, on n'est pas venu avec certains préconcepts, certaines choses que les gens prenaient comme acquis. Par exemple, cette idée de not your keys, not your coin, qui est cette idée que tu dois vraiment contrôler ta clé privée et que d'avoir une seed phrase, c'est vraiment la manière d'avoir le self-custody. Donc, toutes ces choses nous ont vraiment paru comme des absurdités, puisqu'on avait l'impression que c'était une technologie qui pouvait vraiment avoir un impact sur les années à venir et sur le monde. Mais on s'est voilà, rapidement rendu compte qu'on n'arriverait jamais à amener des millions d'utilisateurs sur base de l'expérience auquel elle était à ce moment-là. Et donc ça nous a vraiment donné l'envie de créer.
Ah, ok. Donc c'est comme ça que vous avez créé Argent avec du coup toi ton côté très technique. Tu as fait de la cryptographie auparavant et donc un de tes collaborateurs qui est aussi très technique et le troisième qui est plutôt ton côté business.
Exactement.
Donc ouais, une belle équipe. Belle équipe. Donc vous êtes rentré, vous avez commencé à travailler sur Argent en 2017. Quand est-ce que s'est lancé concrètement le portefeuille?
Alors, on a commencé à travailler sur un premier proof of concept, donc en 2017. On a vraiment levé des fonds et créé la boîte vraiment le 1er janvier 2018. Je pense qu'il a fallu 2 mois avant qu'on ait introduit en bêta, qu'on a pu commencer à faire tester par certains utilisateurs.
Ok. Et donc, comme on dit, Argent, c'est un portefeuille numérique qui permet d'interagir avec les blockchains. Justement, qu'est-ce que c'est concrètement Argent? Comment ça fonctionne? Quelles sont les blockchains avec lesquelles on peut interagir si on est utilisateur de l'argent?
Alors nous, on s'est lancé vraiment à l'époque, il y avait Bitcoin et Ethereum. Et donc, nous, on était vraiment convaincus qu'Ethereum était le blockchain le plus intéressant. Parce que comme je disais, on est arrivé avec cette idée de vouloir permettre à monsieur et madame tout le monde d'accéder au blockchain. Et donc pour ça, on s'est dit, il faut vraiment améliorer cette expérience utilisateur et il faut essayer d'abstraire toute une partie de cette complexité. Et cette complexité, c'est quoi en tant qu'utilisateur? C'est ce concept de seed phrase, de clé de cryptographie, de gaz. Je me souviens, moi, mes premières transactions, le premier wallet que j'ai installé, je suis plutôt quelqu'un technique, j'y comprenais rien. C'est des concepts qui, voilà, qui n'ont pas beaucoup de sens. Au final, je voulais faire quelque chose.
Et c'est bien que tu le dises pour ceux qui nous écoutent, qui peuvent être rebutés aussi. Même quelqu'un de très technique comme toi peut être freiné par la barrière technologique à l'entrée.
Tout à fait. Mais pour nous, c'était vraiment une aberration. Moi, je me souviens de quelque chose que j'ai dit depuis le début, c'est qu'on a passé 30 ans sur le web à essayer d'expliquer à quelqu'un comme ma mère de ne pas écrire son mot de passe sur un bout de papier. Et maintenant, on veut créer l'Internet de valeur. Et la première chose que tu dois faire, c'est écrire ce mot de passe sur un bout de papier, pas une fois, mais deux ou trois fois, au cas où tu perdrais ce bout de papier. Ouais. Ah, mais ça n'a vraiment pas de sens. Ouais. Et donc, nous, on a vraiment voulu régler ce problème-là. Le problème, c'est qu'à l'époque, déjà, tu as des wallets, ou pas vraiment des wallets, tu as des solutions qui permettaient aux gens d'accéder à de la crypto et qui avaient une très bonne expérience utilisateur, comme Coinbase, ouais. Mais qui enlève une propriété fondamentale de cette technologie, c'est ce concept de self-custody, que tu es vraiment en contrôle de tes assets. Et donc, on était vraiment à un moment où, d'une part, tu avais des produits avec une bonne expérience utilisateur, comme Coinbase, mais qui, au final, est un produit Web2 tout à fait classique, puisque l'utilisateur se connecte avec un email, un password, mais c'est au fait Coinbase qui a les cryptos. C'est Coinbase qui contrôle les cryptos et qui les gère pour l'utilisateur. Et donc, tu avais d'un côté cette expérience utilisateur vraiment bonne, mais qui, pour nous, n'est pas blockchain, puisque c'est vraiment un produit Web2. Et puis de l'autre côté, tu avais ces wallets non custodiales comme Ledger, MetaMask, où tu contrôles vraiment tes fonds, mais où l'expérience est extrêmement compliquée. Et donc nous, on s'est dit, on était convaincus qu'on pouvait en fait faire l'expérience d'un Coinbase tout en ayant ces principes de self-custody et de censorship resistance. Et donc l'idée qu'on a eue, c'est d'utiliser des smart contrats pour faire ça.
D'accord.
Et donc sans rentrer dans les choses un peu trop techniques, sur Ethereum, un compte utilisateur, ce qu'on appelle une EOA, c'est en fait un objet qui est écrit dans le protocole et qui est vraiment associé à cette clé privée. Et il y a vraiment un lien entre les deux, c'est en fait la même chose, c'est les deux côtés d'un même objet. Parce que l'adresse de ce compte dans Ethereum est liée à cette clé privée et seulement cette clé peut faire des transactions sur ce compte. Donc toute cette logique est au niveau du protocole. Et donc nous, ce qu'on a voulu innover, c'est de se dire, en fait, on ne veut pas utiliser ce compte qui est très limité, qui force les utilisateurs à avoir cette seed phrase. On va utiliser un autre type de compte qui existe sur Ethereum, qui est ce qui s'appelle les smart contracts. Et donc, on a vraiment eu l'idée de dire, plutôt que les utilisateurs contrôlent ce compte-là, on va vraiment utiliser ces smart contracts comme étant le compte sur lequel l'utilisateur va avoir ses cryptos, ses NFT, ses tokens, etc.
Okay.
Et pourquoi c'est intéressant? Parce que si c'est un smart contract, c'est un objet qu'on peut programmer. Et donc, ça nous a permis, au fait, de mettre tout un tas de logiques vraiment au niveau de ce compte-là. Et donc, d'utiliser ça pour faire une expérience utilisateur qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus compréhensible. Et donc, c'est vraiment, ça a été ça notre différenciateur par rapport à toutes les autres solutions qui existaient à cette époque-là. Et on a fait le choix aussi de partir sur le mobile, parce qu'on est convaincu que les gens, on va la passer du le web, le futur du web était sur mobile. Et puis aussi parce qu'Itamar et Gérald avaient fait une application dans le mobile avant, donc c'était vraiment leur expertise aussi. Et donc on a lancé donc ce wallet argent en début 2018, qui était une application mobile, qui utilisait dans le blockchain donc un smart contract comme un compte, avec toute une partie de logique qu'on avait mis dessus, et qui nous permettait de rendre l'expérience utilisateur très simple. Au final, pour l'utilisateur, c'était une application comme Revolut, comme Robinhood, comme une application bancaire normale, où il pouvait simplement appuyer sur des boutons et les choses se faisaient de manière très, 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 très simple. Et donc ça a fonctionné très bien au début. Alors au tout début, les gens nous ont pris un peu pour des fous avec cette idée d'utiliser un smart contract comme attente, parce que justement, tu dois contrôler la clé privée. Si tu n'as pas la clé privée, si tu n'as pas la seed phrase, c'est pas de la self-custody. Et puis, en fait, petit à petit, les gens ont commencé à se rendre compte que ce qu'on faisait n'était pas tout à fait idiot et que ça avait du sens. Et surtout, les utilisateurs adoraient notre expérience, puisqu'on avait vraiment abstrait toute la complexité du blockchain. Par exemple, au début, on subsidiait les transactions des utilisateurs. Donc, les gens ne devaient même pas payer de gaz, ce qui permettait qu'on ne devait pas expliquer le gaz. Et donc, on avait donc cette super expérience utilisateur. Les gens achetaient l'argent de plus en plus. On avait une belle croissance, tout était super. Et puis, en 2020, le blockchain a commencé à être vraiment congestionné, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ont fait des transactions. Et comme Ben, comme ils ont fait de plus en plus de transactions, le coût des transactions ont commencé à devenir cher. Et donc, en fait, les coûts d'utilisation d'un wallet non custodial ont commencé à exploser. Puisque sur le blockchain, tu dois payer pour tes transactions. Mm-hmm. Donc, même si nous, on le payait pour nos utilisateurs, ça a commencé à nous coûter extrêmement cher. Et donc, voilà. On s'est rendu compte à ce moment-là, en fait, qu'Ethereum était la bonne plateforme technologique, mais que ça ne scalerait pas assez. Ce n'était pas une bonne base pour, en fait, atteindre notre vision, qui était de permettre à des millions et des centaines de millions de personnes d'utiliser ces technologies. Donc, on était, voilà, à ce moment, on s'est dit, notre approche, notre modèle, notre expérience était la bonne. Mais malheureusement, sur Ethereum, aujourd'hui, c'est sur le layer 1, ça ne marche pas. Mmh. Et donc, on a commencé à regarder. Bah, en fait, on n'était pas les seuls à se rendre compte qu'il y avait un problème de capacité sur Ethereum. Et donc, on a commencé à ce moment-là à s'intéresser à ce qui s'appelle des layer 2. C'est donc cette idée, justement, d'utiliser une couche supérieure pour permettre d'avoir plus de transactions et de réduire le coût des transactions. Mmh. Et donc, voilà, ça c'était plus ou moins, je veux dire, au début de 2020, ou en cours de 2020, où on a commencé vraiment à regarder bah, quels étaient les layer 2. Où est-ce qu'ils en étaient, ouais, etc.
Un peu par la force des choses, parce que vous étiez finalement les premiers à être concernés par le fait que les frais de gaz sur Ethereum avaient augmenté. Vous payez donc les frais de gaz pour vos utilisateurs. Vous êtes arrivé quand même donc très très tôt sur ce sujet des layers 2 qui aujourd'hui voilà, font l'actualité très souvent. On connaît énormément de layers 2, on connaît leur importance. Vous, en 2020, c'était plus compliqué de vous positionner. C'était un pari assez risqué. Est-ce qu'aujourd'hui ça a payé? Ça vous a permis de développer votre base d'utilisateurs?
Alors, est-ce que ça a payé? C'est encore un peu tôt pour le dire, parce que de manière générale, le blockchain reste encore un peu tôt. Mais oui, je pense que, de nouveau, on est un des premiers projets avec un peu de visibilité à s'être positionné, à dire, ben voilà, nous, on va investir sur ces layers 2-là et pas sur ceux-là. Et à expliquer pourquoi, donc à prendre, entre guillemets, un certain risque aussi. Et oui, je pense que maintenant, les gens se rendent compte que les choix qu'on a faits étaient probablement les bons. Ouais. Et donc, effectivement, à ce moment-là, il y avait en gros, il y avait deux grosses approches de layer 2. Il y a d'un côté ce qu'on appelle les optimistic roll-up, et puis d'un autre côté, les ZK roll-up. Mm-hmm. Et donc, nous, on a parlé avec toutes ces équipes, et donc les projets principaux d'optimistic roll-up, c'est Optimism et Arbitrum, mm-hmm. qui sont des gens qu'on connaît très bien, avec qui on était en contact, qu'on respecte beaucoup. Mm-hmm. Et puis de l'autre côté, tu avais Staffquare et ZK Sync, qui eux étaient partis sur cette idée de ZK roll-up, qui étaient aussi des gens qu'on connaissait, avec qui on était en contact. Et donc, on a vraiment essayé de se plonger dans ces différentes technologies et de dire, ben, pour nous, quelle est la meilleure base pour cette vision qu'on a envie de réaliser. Et donc, effectivement, contrairement à beaucoup de projets qui, à ce moment-là, se lançaient plutôt sur des optimistic roll-up, parce que les optimistic roll-up étaient un peu plus prêts, c'est une technologie qui est fondamentalement un peu plus simple, et donc elle était plus prête à être là. Et donc, beaucoup de dApps se sont engagés dans cette direction-là. Ben, nous, on a toujours eu cette vision de construire pour le futur. Et donc, on s'est dit, ben non, en fait, la meilleure base, ça reste les ZK roll-up. Ils vont peut-être mettre un tout petit peu plus de temps à arriver. Mais notre impression, c'était qu'ils n'allaient pas mettre tant que ça de plus que les optimistic roll-up. Et je pense que tout le monde était d'accord à ce moment-là de dire que les ZK roll-up étaient la solution du futur, mais qu'ils allaient arriver 4 ou 5 ans après les optimistic roll-up. Et donc, c'est même quelque chose que Vitalik a dit plusieurs fois. Et donc, nous, en discutant avec les différentes équipes, on s'est dit, ben, on s'est rendu compte, en tout cas, on a fait le pari de se dire, ben non, en fait, ces équipes sont vraiment très fortes, elles avancent vite, et en fait, elles vont arriver peut-être 6 mois après, peut-être un an après, mais pas beaucoup plus. Et donc, on s'est dit, ben voilà, pourquoi passer par une solution intermédiaire et devoir reconstruire encore une nouvelle fois notre solution sur la solution de futur? On va directement commencer dès maintenant à construire sur ce qui est pour nous le futur, en faisant le pari que ce futur allait arriver beaucoup plus vite que ce que les gens pensaient. Et c'est ce pari-là, je pense, qui est plus ou moins vrai, puisque maintenant, aujourd'hui, les ZK roll-up sont aussi prêts que les optimistic roll-up. Ils sont tous plus ou moins... Alors, il y a une espèce de guerre pour essayer d'avoir le plus de performance possible, d'avoir le plus de dates, mais tous ces projets sont plus ou moins au niveau aujourd'hui.
Ouais, donc c'est plutôt celui-là qui a été le pari réussi.
Plutôt fait un bon pari, je pense.
Parce qu'en effet, donc aujourd'hui, Starknet est très développé, à rattraper le retard. Bon, on n'est évidemment pas au niveau d'Arbitrum, qui sont exactement les plus matures, parce qu'ils ont une année de plus de maturité. Mais donc Zcashing aussi, qui est très développé. Mm-hmm. Ce sont les deux layers 2 principales sur lesquels vous êtes positionné. Il y a un sujet que je voulais aborder avec toi, notamment sur les différents services que vous proposez. Mm-hmm. On a l'extension web, qui permet notamment d'interagir avec Starknet. On a le wallet mobile qui permet d'interagir avec Zcashing. Il y a un petit peu de flou autour de ça, je le sais. Moi-même, à mon échelle personnelle,
on sait aussi. Voilà.
Tout comment ça se passe? Est-ce que tu peux essayer de peut-être essayer de clarifier ça pour nous et vos ambitions aussi, vous avec Argent?
Mais donc, nous, Argent, la vision, ça a quand même toujours été cette vision mobile. Donc, d'essayer de créer un peu un Revolut décentralisé, ou un Coinbase décentralisé sur mobile. Et donc, on a commencé à vraiment se plonger dans ZkSync et StaffNet. Et donc, dans ZkSync, ils ont choisi d'être ce qui s'appelle IVM compatible, c'est-à-dire que la virtual machine, la manière, la logique du protocole est la même que sur Ethereum. Okay? Donc, tu as vraiment l'IVM comme tu as sur Ethereum, sur Arbitrum, sur Optimism, avec l'idée d'attirer les dApps de cet écosystème-là. StaffNet, ils ont choisi de faire un pari encore un peu plus risqué et de se dire, en fait, on va créer la meilleure stack pour le problème qu'on veut résoudre. Et donc, eux se sont abstraits de la contrainte d'être IVM compatible et ont créé leur propre version du protocole, si tu veux. Et ils ont essayé de construire ça vraiment avec une communauté, de créer une certaine communauté et de créer ça de manière tout à fait transparente. Et en fait, quand moi j'ai commencé à me plonger un peu plus dans StaffNet, vraiment au tout début de StaffNet, t'avais plein de devs qui étaient vraiment passionnés, des gens super malins qui réfléchissaient à des jeux, comment utiliser cette nouvelle plateforme pour faire des choses innovantes. Mais en fait, il n'y avait pas de wallet. Et les gens ne savaient même pas comment est-ce qu'ils allaient vraiment gérer les comptes sur StaffNet. Et donc, on s'est dit, en fait, ça, c'est une opportunité. Et on est vraiment parti avec l'idée de dire, on va prendre un mois et on va vite faire un wallet pour, en fait, permettre à cet écosystème de grandir. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, le meilleur wallet pour un développeur, ce n'est pas une application mobile où tout est abstrait, c'est quand même quelque chose qui est dans le browser avec lequel le développeur peut jouer. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Argent X, qui est cette extension browser sur StaffNet. C'était vraiment dans l'idée de se dire, l'écosystème, on y croit. Pour nous, c'est notre futur. Mais aujourd'hui, on est tellement en balbutiement qu'on va en fait faire le meilleur outil pour l'écosystème maintenant. Ouais. Et ça, ce n'était pas notre vision d'un wallet où tout est super slick, où l'expérience est incroyable. Non, c'est quelque chose qui ressemble plus à un MetaMask en utilisant les concepts de StaffNet, qui est le concept d'Account Abstraction, dans lequel on peut revenir. Mais donc, voilà, c'est la raison pour laquelle on a commencé avec donc Argent X, qui est une extension browser. Effectivement, ça a créé beaucoup de confusion pour les utilisateurs parce que, finalement, les gens ne comprennent pas forcément toutes ces subtilités, ces différentes technologies. Et ils ont, à juste titre, ils n'ont pas forcément besoin de comprendre le protocole en dessous. Et donc, les gens ne comprenaient pas pourquoi ils avaient un compte dans le mobile, ils avaient un nom sur StaffNet, pourquoi est-ce que la seed phrase ne fonctionnait pas. Et ça a créé effectivement beaucoup de confusion, dont on est tout à fait conscient. Mais notre idée a été de se dire, il faut aller vite, il faut aider cet écosystème à grandir. Et puis, on va essayer de consolider les choses. Et alors, notre vision est toujours de dire que ça va être une expérience commune sur StaffNet, sur le mobile, sur le browser. Mais aujourd'hui, c'est effectivement un peu fragmenté. Et donc, ça crée un peu de confusion pour les utilisateurs.
Non, mais c'est intéressant que tu reviennes dessus. Et on comprend mieux, finalement, que vous avez donc répondu à un besoin des développeurs à un instant T, obligé donc de sortir cette extension qui n'était pas forcément votre idée initiale, tout en continuant donc de développer l'application mobile à son rythme et qui donc à l'heure actuelle permet de supporter ZkSync et qui permettrait éventuellement à l'avenir de supporter aussi StarkNet
dans un avenir très très proche parce que dans mon téléphone ça fait déjà un mois que je l'utilise mais donc on l'a pas encore rendu accessible aux utilisateurs mais on parle de quelques semaines.
D'accord.
Donc effectivement les utilisateurs pourront bientôt accéder à StarkNet via l'application mobile argent. Ouais. Ce qui est une super nouvelle.
C'est une très bonne nouvelle, une exclusivité pour Cryptost. Et on parle du mobile. Et le mobile propose, l'application mobile propose un système de récupération, justement. Mmh. Et tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure. Je voulais rebondir dessus parce que je trouve ça très intéressant. C'est finalement ce principe de conserver sa clé privée par soi-même, comme tu disais. On sait que voilà, c'est quelque chose qu'on nous rabâche systématiquement. Il faut conserver sa clé privée. C'est un combat que mènent les OG. Et on l'a vu récemment quand Ledger a sorti Ledger Recovery. Ça a fait grincer des dents beaucoup de personnes. Vous avez pris un pari un petit peu différent. C'est de finalement, si je peux résumer ça comme ça, tu me dis si je dis une bêtise, mais de stocker sa clé privée à l'intérieur du smart contract et de finalement peut-être déléguer la responsabilité, entre guillemets, de la stocker à ce smart contract, c'est ça?
C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Je vais essayer de l'expliquer sans devenir trop trop technique, mais l'idée, c'est comme le compte est un smart contract, on programme ce smart contract avec une clé principale qui généralement est sur le téléphone et on dit cette clé-là, en fait, elle peut signer les transactions et le smart contract va reconnaître ces signatures et va exécuter l'opération. Par exemple, tu veux transférer des assets, tu veux minter un NFT, donc ta clé sur ton téléphone va signer la transaction, va l'envoyer à ton smart contract. Le smart contract va dire, oui, c'est bien la clé qui est autorisée à le faire et va exécuter l'action. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si tu perds cette clé? Et typiquement, dans le monde classique, tu dois avoir donc cette seed phrase qui est une manière de décrire cette clé, si tu veux. Et donc, nous, c'est l'expérience qu'on voulait enlever. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que dans ce smart contract, on a programmé avec une deuxième clé. Et cette clé-là, elle peut pas signer des transactions qui vont transférer les tokens, qui vont transférer les assets. Elle peut quasi rien faire sur le compte. Mais dans la logique du compte, elle peut faire une chose, c'est reprogrammer le smart contract avec une nouvelle clé principale.
Okay.
Et ça, c'est ce concept qu'on a appelé des guardians. Et donc, l'idée, c'est que le jour où tu perds ton téléphone, bah, tu as perdu ta clé principale. Tu vas en fait contacter l'entité qui joue ce rôle de guardian, qui contrôle cette deuxième clé. Tu vas lui dire, écoute, c'est bien moi Lilian, je suis le vrai propriétaire de ce compte. Est-ce que j'ai réinstallé l'application, j'ai une nouvelle clé principale, est-ce que tu peux l'autoriser sur mon smart contract? Et donc ça, c'est vraiment ce concept de recovery qu'on a appelé social recovery, parce qu'à la base, l'idée du protocole, c'est que tu peux avoir plusieurs guardians et que collectivement, ils doivent exécuter cette opération.
Okay.
Mais ça, c'est l'idée vraiment de ce concept de recovery, c'est de dire que tu peux retrouver accès à ton compte sans avoir besoin d'écrire ces petites phrases et de garder vraiment une trace de cette première clé, simplement en utilisant donc ces guardians pour te redonner accès à ton compte.
Ouais, parce que quand on télécharge un compte, quand on crée un compte, pardon, sur le wallet mobile, on a automatiquement
Exactement.
Ce dossier qui va se créer avec
Exactement.
Tout le système de récupération.
Donc aujourd'hui, ça dépend, mais de manière simplifiée, aujourd'hui, tu as de base un guardian qui est stocké, que nous, on gère pour l'utilisateur.
D'accord.
Et ce guardian, il va faire son action en demandant à l'utilisateur de s'authentifier avec par email et par SMS.
Yeah.
Donc on vérifie que l'utilisateur est bien le vrai propriétaire du compte en vérifiant son email et un code qu'on envoie par SMS. Et si l'utilisateur réussit ces deux challenges, ben le service va envoyer cette transaction. Après ça, de nouveau, sans rentrer trop dans les détails, c'est pas parce qu'on a cette clé qu'on a quelconque contrôle sur le compte de l'utilisateur. Donc l'utilisateur, avec la clé principale, reste le vrai propriétaire du compte. Et donc cette clé, d'une part, elle ne peut que faire cette action de recovery, mais surtout l'utilisateur reste en contrôle. Donc les utilisateurs avancés peuvent très bien, en fait, changer cette clé guardian et mettre, par exemple, un ledger que le contrôle et mettre dans un compte en banque. Donc l'utilisateur a vraiment le contrôle, mais pour l'utilisateur lambda au principal, ben, eux sont très contents de faire confiance à l'argent et donc eux vont utiliser ce service que l'on fournit. Mais ce qui est important, c'est que tout ça est vraiment programmé dans le smart contract au niveau du protocole.
Ouais. Donc finalement, en tant qu'utilisateur, on a le choix entre cette solution entre guillemets de facilité et décider de totalement reprendre la main quand même sur ces cryptos et de changer ce guardian.
Exactement. Okay. C'est quelque chose qui pour nous est très important chez Argent, c'est qu'on veut être pragmatique et donc on veut une bonne expérience pour les utilisateurs, mais on veut vraiment que les gens restent en contrôle parce que la beauté et la puissance du blockchain, c'est que les gens contrôlent vraiment leurs assets, contrôlent vraiment leur identité on-chain. Et donc, on propose des solutions simples pour la plupart des utilisateurs, mais les gens qui le veulent peuvent vraiment avoir un peu plus de contrôle. Donc, c'est vraiment un trade-off ou un choix d'utilisateur. Donc, les gens peuvent passer par des choses un peu plus complexes, mais qui, pour eux, leur semblent un meilleur compromis. Par exemple, une chose qui est importante chez Argent, c'est que nous, on veut pouvoir disparaître en tant que société. Ça paraît assez bête, mais les gros problèmes qu'on voit avec tous les échanges centralisés, c'est que le jour où ils sont en faillite, ben, les utilisateurs perdent tout leur fonds. Et donc nous, chez Argent, on a vraiment de nouveau programmé ce compte pour que la société Argent puisse disparaître, parce que c'est des choses qui arrivent, mais les gens gardent toujours le contrôle. Et donc peuvent en fait sortir de l'écosystème Argent, ils vont garder leur smart contract, mais simplement, ils vont pouvoir le contrôler avec des ledgers, avec autre chose.
Et c'est intéressant que tu abordes le sujet de société, puisque je voulais justement te poser une question là-dessus. Récemment, il y a eu des actualités autour notamment de MetaMask, qui est le plus gros portefeuille à l'heure actuelle, le plus utilisé en tout cas. Quelques problèmes notamment de résistance à la censure, parce que leur société mère a obligation de se conformer à certaines réglementations. Comment est-ce que vous vous positionnez sur ce sujet de la censure?
Comme je le disais avant, c'est quelque chose auquel nous, on réfléchit beaucoup. Je pense que les choses sont toujours une question de compromis aussi. Mais donc, nous, notre philosophie a toujours été de dire que l'utilisateur doit avoir le contrôle final. Et donc, nous, en tant qu'argent, en tant que société, on peut disparaître. Il doit exister une solution pour les utilisateurs pour reprendre contrôle de leur wallet sans avoir besoin de passer par notre application. Et donc, cette idée de censorship résistance, elle est fondamentale, je pense, dans tout le monde Web3 et dans le blockchain. Mais ça ne veut pas dire que les utilisateurs, parfois, vont pouvoir faire des compromis et se dire, en fait, moi, je vais, entre guillemets, pas permettre d'être censuré, mais je vais faire un trade-off un petit peu différent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, par exemple, une autre chose que nous, on a programmée dans le compte argent, c'est cette idée de second facteur. C'est de dire en fait qu'on peut programmer ton compte de nouveau avec une autre clé qui va devoir co-signer toutes les transactions. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, cette clé, on la met dans un service de fraud monitoring qu'on contrôle. Et donc, chaque fois que l'utilisateur va faire une transaction, le wallet va envoyer à ce service de fraud monitoring la transaction qu'il veut effectuer. Et ce service va pouvoir l'analyser. Tiens, est-ce que tu interagis avec un contrat qui a été flagué comme étant un scam? Est-ce que tu envoies beaucoup de fonds vers une adresse avec qui tu n'as jamais transacté, etc. Ce service va faire toute cette analyse. Et en fonction du risque qu'il va évaluer, il va soit fournir cette signature automatiquement, et donc c'est transparent pour l'utilisateur, mais dans un certain cas, il va dire « Attends, là, tu envoies 90% de tes fonds à une adresse à qui tu n'as jamais envoyé de fonds, je vais quand même vérifier que tu es bien client, que tu es bien propriétaire. » Donc là, il va demander de faire un challenge avec email, SMS ou un deuxième facteur. Et donc ça permet d'avoir une sécurité qui n'est normalement pas sur le blockchain, toujours avec cette idée que l'utilisateur est en contrôle, donc c'est l'utilisateur qui choisit d'utiliser le service, il peut l'enlever. Mais évidemment, si par hasard le service tombe en panne, tout d'un coup, il ne peut plus envoyer cette deuxième signature. Et donc là, tu peux te dire, l'utilisateur, il va être un peu bloqué pendant le temps qu'il va lui falloir pour enlever ce service et faire cette transaction. Donc c'est toujours une question un peu de compromis. Ce n'est pas vraiment la censorship dans le sens de ne pas bloquer le compte de l'utilisateur, mais l'utilisateur peut choisir dans certains cas une certaine facilité dans la vie de tous les jours. Et si quelque chose se passe, au final, il a toujours le contrôle ultime. Et donc on a ces flows de recovery, etc., qui prennent plusieurs jours à se mettre en place. Donc c'est un petit peu gênant, mais ça permet à l'utilisateur d'avoir la garantie ultime d'être vraiment 100% en contrôle de ses fonds. Et donc, c'est vraiment toujours cet équilibre entre permettre une très bonne une expérience utilisateur tout en permettant à l'utilisateur d'avoir au final 100% de contrôle de son compte.
Ok, très intéressant. Une autre question qui m'est revenue, que j'ai vu passer un petit peu sur les réseaux sociaux, et donc je vais te la poser. Moi, je me la posais aussi personnellement. Quand on est une société comme Argent, comment est-ce que finalement on arrive à gagner de l'argent? Qu'est-ce qui permet de récupérer de l'argent, de se développer, etc. C'est quoi le business model finalement?
C'est une très bonne question. Alors, aujourd'hui, ça peut paraître un peu paradoxal, mais la monétisation n'est pas notre priorité. Nous, on a la chance d'être suivi par des investisseurs qui croient en notre vision. Et donc, notre priorité n'est pas vraiment de faire des revenus, mais c'est de se concentrer vraiment sur améliorer le produit et grandir notre base d'utilisateurs. Après ça, de manière générale, en tant que wallet, il y a différentes manières de faire des revenus. Et quand je dis que notre priorité n'est pas de faire des revenus, on fait quand même du revenu. Mais on n'essaie pas spécialement aujourd'hui d'être profitable ou de faire un maximum de revenus. Alors, il y a différents modèles, je pense, pour un wallet, pour faire des revenus. Il y a des choses assez simples, c'est le transactionnel. Par exemple, tu échanges des tokens avec un échange de décentralisé. Généralement, cet exchange, il va prendre une petite fee. Donc, il va prendre une petite commission sur le swap du token. Tu peux imaginer que cette commission, elle va être partagée avec Argent. Par exemple, puisque nous, on apporte un client sur le DEX, le DEX va nous rémunérer pour ça. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui. Sur notre application L1, par exemple, on travaille avec Paraswap, qui est une compagnie française d'ailleurs. Et donc eux, chaque fois que l'utilisateur va trader des tokens, il va swapper des Ether pour du DAI par exemple, Paraswap va prendre une petite commission, et puis cette commission, elle est divisée entre Paraswap et l'argent. Donc on voit que sur les transactions que l'utilisateur fait, on peut prendre une petite commission.
D'accord.
Tu peux faire la même chose avec des protocoles DeFi. Si on permet à l'utilisateur de staker des tokens par exemple, et que l'utilisateur va gagner 4% de taux d'intérêt en moyenne sur ses cryptos, tu peux imaginer qu'en fait, une petite fraction, au moment où l'utilisateur sort de ce produit-là, une petite fraction va être rétribuée, par exemple, au wallet. Ça, c'est le business un petit peu classique. Il y a des choses un peu plus intéressantes, je crois, aussi dans Web3. Par exemple, je parlais du staking. On travaille avec Lido, qui est un fournisseur d'ISTIS. Et en fait, eux ont construit un protocole, mais n'ont pas vision d'avoir une interface pour l'utilisateur. Et en fait, ils rétribuent les DApp qui apportent du trafic chez eux. Et donc, chaque fois que quelqu'un investit des Ethers et les convertit en STIs avec le protocole Lido, Lido, en fait, nous donne des Lido tokens. Maintenant, presque plus, mais voilà. Au début, donc, tu peux imaginer qu'il y a des partenariats en fait, avec les protocoles et que nous, dans notre wallet, on est rétribué indirectement pour amener justement de l'activité sur une DApp en particulier.
Ok, donc vous avez des incentives en tant que rapporteur d'affaires finalement.
Exactement. Donc ça, c'est les deux modèles qui aujourd'hui sur lesquels on a un petit peu exploré et ce qui nous apporte du revenu. Après ça, moi, je pense qu'il y a énormément de modèles possibles. C'est un monde qui est nouveau, et donc je pense qu'il faut justement inventer aussi des nouveaux business models. Mais notre point de vue a toujours été de dire qu'en tant que wallet, tu es vraiment le lien entre les utilisateurs et le protocole. Et donc, ben, y a beaucoup de manières de monétiser. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous inquiète. Mais donc, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on a du revenu via ces deux mécanismes-là, donc de l'apporteur d'affaires de protocole, et puis via vraiment les transactions que les utilisateurs font avec les échanges. C'est par exemple comme ça que MetaMask fait la majorité de son argent avec ça. Le moment où ils ont intégré un agrégateur d'échanges décentralisés, mais en fait, eux prennent une commission sur chaque trade via MetaMask, et c'est comme ça qu'ils font des revenus et qu'ils font beaucoup de revenus. Donc après ça, c'est à chacun de choisir combien de revenus il veut prendre et quelle fraction il veut faire. Mais donc voilà, il y a vraiment différentes manières assez directes de faire du revenu. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses à inventer encore.
C'est ça qui est excitant. Non, mais c'est très intéressant de les connaître aussi. Je voulais parler d'un autre sujet. Vous êtes très très actif dans l'accompagnement, le développement aussi des communautés sur les blockchains que vous supportez, notamment Starknet. Je sais que vous accompagnez beaucoup de projets, vous les supportez. C'est très intéressant d'ailleurs de le voir. Vous surveillez beaucoup du coup les projets qui se développent sur ces blockchains-là, ou peut-être même sur d'autres blockchains que vous surveillez. Quels sont ceux qui vous intéressent le plus à l'heure actuelle, que ce soit de la technologie, des applications? Qu'est-ce que vous surveillez finalement?
C'est une bonne question. Je pense que sur Starknet, notre stratégie, entre guillemets, aujourd'hui, on est le wallet principal sur Starknet. Donc, il y a essentiellement deux wallets et je pense qu'on a 70% de market share, plus ou moins. Et bien, donc, notre stratégie, c'est de dire, c'est très bien d'avoir 70%, mais 70% d'un petit gâteau, c'est très intéressant. Et donc, on est vraiment plus en mode, comment est-ce qu'on peut faire grandir cet écosystème? Parce qu'au final, si l'écosystème grandit, si les gens viennent parce qu'il y a une super dApp, ben, ils vont devoir utiliser un wallet. Et là, aujourd'hui, 7 chances sur 10 qu'ils utilisent notre wallet. Ce qui est intéressant. Donc, on est vraiment avec cet état d'esprit-là, c'est de se dire, ben, en fait, comment est-ce qu'on peut aider l'écosystème Starknet à grandir? Et donc, ce n'est pas qu'on a des préférences avec des DApp, mais c'est plutôt chaque initiative, chaque DApp, ben, si on peut l'aider à s'améliorer, si on peut l'aider à avoir une meilleure expérience utilisateur, si on peut les conseiller au final pour faire les bons choix, même si on n'en profite pas directement, c'est un net positif pour l'écosystème qui va grandir, parce que ça va attirer les utilisateurs. Et donc, au final, on en bénéficiera en tant que wallet sur cet écosystème.
Et vous êtes satisfait de ce qui se développe sur Starknet à l'heure actuelle?
Alors, on reste vraiment tôt. Starknet est encore, se considère toujours en alpha, à juste titre. Donc, généralement, un produit software et la phase alpha, c'est vraiment la première version. Puis ça passe en bêta quand c'est un peu plus stable et puis c'est en production. Et donc, Starknet se considère toujours en alpha. Jusqu'à la semaine passée, je pense que les performances n'étaient pas terribles parce que justement, il y a de plus en plus de gens qui sont venus sur la technologie et à un moment, ce que la technologie pouvait délivrer à ce moment-là était limité. Et donc, l'expérience a été fortement dégradée puisqu'il y avait en fait plus de transactions que ce que le système pouvait supporter à ce moment-là. Mais depuis 4 jours, je pense, ils ont vraiment atteint un milestone technologique sur lequel ils travaillaient depuis un moment. Concrètement, ils ont remplacé un composant de leur infrastructure, le séquenceur, et maintenant, ils ont des performances. Alors, on n'a toujours pas testé jusqu'où on peut aller, mais ça va 30 à 40. Ça permet d'avoir 30 à 40 fois plus de transactions que ce qu'on pourrait faire la semaine passée.
Ce qu'on a observé, c'est qu'avant, on était limité. Aujourd'hui, on ne l'est plus et on n'a pas encore testé la limite. Donc,
exactement. Mais donc, on voit que c'est... Voilà, et je pense que ce milestone qui a été atteint maintenant, pour moi, je le vois vraiment comme un point d'inflexion. Je pense vraiment que là, la technologie maintenant, ben, elle permet d'avoir entre 50 et 100 transactions par seconde, ce qui dépend du type de transaction. Ce qui est au final plus que ce que fait un Ethereum. Et je pense que pour aujourd'hui, ben, ça permet déjà de pas mal grandir l'écosystème. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on a atteint un point d'inflexion sur Starknet. Et donc, ça aussi, ça va permettre à des applications qui n'étaient pas possibles jusqu'à il y a 2 semaines, puisque le réseau était trop limité, vont devenir possibles. Un autre milestone qui était un peu plus technologique qu'ils ont aussi atteint avec cette même release la semaine passée, c'est que leur langage de développement de smart contrat a été complètement refait. Et donc, dans le monde de VM, tout le monde utilise Solidity, qui est la manière de programmer des smart contrats, essentiellement. Et donc, Starkware a décidé de créer son propre langage pour justement, Kero, exactement, pour se dire de nouveau, autant utiliser le meilleur outil pour le problème qu'on a. Et dans le monde des Ikerolop, Solidity n'était pas très approprié. Et donc, ils ont développé ce langage Kero. Et donc, ils ont d'abord une première version Kero 0 qui était assez compliquée. assez bas niveau. Et en fait, il travaille depuis 6 mois à la deuxième version de ce langage, qui est O1, qui est très, très aligné sur Rust, qui est un des langages de programmation classiques. Et donc ça veut dire qu'écrire des smart contracts devient beaucoup, beaucoup plus simple. Et donc, depuis une semaine, on a vraiment la combinaison de ces deux choses. D'une part, le réseau permet de faire beaucoup plus de choses, et créer des applications devient beaucoup, beaucoup plus simple. Donc, on pense vraiment que c'est ce moment charnière qui fait que StartNet va vraiment beaucoup se développer. Donc, aujourd'hui, c'était beaucoup des gens qui viennent pour faire du farming, des repenting, expérimenter l'écosystème ou des développeurs qui construisent leur projet. Je pense qu'à partir de maintenant, dans les 6 mois qui viennent, on va vraiment avoir une partie des applications qui étaient en développement, qui étaient en testnet, vont pouvoir venir sur le mainnet. Donc, je crois que ça va être assez excitant.
Donc, finalement, une mise à jour qui permet à la fois d'attirer des nouveaux utilisateurs et des nouveaux développeurs qui auront plus de facilité à développer. Une grosse étape qui, du coup, évidemment, aura un impact pour vous, puisqu'il va falloir supporter plus d'utilisateurs maintenant. Et avant de terminer l'interview, j'avais une petite dernière question à te poser. Voilà, on parlait de Starknet, tu parlais du fait que vous avez un peu moins de concurrence, 70% des parts de marché. Sur Zcashing, c'est différent. Vous êtes en face de MetaMask, le plus gros wallet à l'heure actuelle. La stratégie est différente.
Oui, c'est une, je me rends compte que j'ai dit 70 parce que je suis belge, j'ai pas 70, mais
vous avez compris, j'avais traduit.
Tout à fait. Donc, en fait, une des choses qui pour nous était importante, je sais pas si je l'ai dit là tantôt, mais quand on a commencé à regarder ces layer 2, on s'est dit qu'il fallait trouver un nouvel endroit sur lequel construire notre expérience. On voulait une solution qui puisse scaler les transactions par seconde, c'est-à-dire permettre au fait d'avoir beaucoup de transactions à peu de coûts. Mais on voulait aussi une solution qui nous permettait de grandir, de réaliser l'expérience utilisateur qu'on voulait faire. Et comme on en a déjà discuté, l'account est un smart contract. Le problème, c'est que sur Ethereum, l'account de base, c'est cette IOE, c'est cette clé dont on a parlé. Et donc, on a toujours été un peu un objet un peu différent. Ce qui veut dire que sur certaines dApps, on ne fonctionnait pas très très bien. Parce qu'elles construisent leur dApp en supposant que les gens vont venir avec un IOE et pas avec un smart contract wallet. Ce que Starknet a fait de vraiment intéressant, c'est de dire qu'en fait, sur Starknet, tous les comptes sont des smart contracts. Et donc, en fait, ils ont rendu le modèle d'argent le modèle natif, ce qui fait qu'on est compatible avec toutes les dApps dessus. Et ça, c'est doublement intéressant parce que de un, notre modèle est le modèle par défaut, donc on peut enfin créer l'expérience qu'on veut. Mais aussi, ça veut dire qu'un MetaMask et ses wallets plus classiques, c'est complètement nouveau pour eux. Et c'est pour ça qu'ils ne viennent pas sur Starknet.
Une longueur d'avance.
Voilà, on a une vraie longueur d'avance. Zcsync a toujours été aligné avec cette idée, ce qu'on appelle l'account abstraction, cette idée d'utiliser des smart contracts comme un compte. Donc c'est quelque chose qu'ils ont toujours voulu faire aussi, mais en même temps, eux ont envie d'attirer le monde EVM sur Zcsync. Et donc eux ont choisi d'être EVM compatibles, c'est-à-dire de suivre le standard de l'EVM. Mais donc ils ont fait un petit peu les deux choses en même temps. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont ce qui s'appelle cet account abstraction nativement. Et donc nous, Argent, on peut créer des comptes qui sont vraiment des smart contracts au niveau du protocole. Mais en même temps, les MetaMask et les autres toilettes fonctionnent aussi. Et les dApps peuvent vraiment prendre leur code d'un Optimism, d'un Arbitrum et venir le mettre directement sur Zcsync. Et ça, ça a un impact effectivement sur Argent, puisqu'on se retrouve de nouveau dans un monde où les dApps, elles programment pour le monde EVM. Et donc, la beauté du monde EVM, c'est que tu peux prendre ton code de Ethereum, le mettre sur Optimism, Arbitrum et sur Zcsync sans devoir changer une ligne de code. Ça, c'est intéressant. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, certaines dApps restent incompatibles avec le modèle argent. Puisque même si elles pourraient en fait, bénéficier de cet account abstraction native sur Zcsync, elles ne le font pas parce qu'elles veulent utiliser leur code exactement comme ils l'ont prévu pour les autres chaînes EVM. Et donc, ça fait effectivement ce qu'on se rend compte, c'est quelque chose qu'on voulait tester, mais on se rend compte effectivement que notre adoption est beaucoup plus compliquée. Parce que d'une part, on lutte contre des MetaMask qui ont beaucoup plus d'utilisateurs que nous. Et surtout, en fait, il y a toujours certaines dApps avec lesquelles on ne fonctionne pas parce qu'elles continuent à programmer pour des wallets comme MetaMask. Et donc, aujourd'hui, on est sur les deux, Starknet et Zcsync. On va un petit peu voir, mais clairement, on est un petit peu plus actif sur Starknet parce que là, notre modèle fonctionne avec 100% des dApps, on a beaucoup plus d'adoption. Sur Zcsync, ça va être plus dur parce que d'une part, on lutte avec des wallets qui ont déjà beaucoup plus d'utilisateurs et surtout, on est toujours un modèle qui est un petit peu différent.
Est-ce qu'il y a quelques milestones importantes à venir pour le projet, pour Argent, dont tu pourrais parler rapidement pour ceux qui nous écoutent, si ça les intéresse.
Tout à fait. Bah, comme je vous ai annoncé, on a l'application mobile dont on va supporter StarkNet sur le mobile. Ça, je trouve ça assez chouette. On est en fait en train de lancer un nouveau produit sur StarkNet aussi, quelque chose que je vais annoncer à HCC jeudi, qui s'appelle le Web Wallet. Et donc, l'idée, c'est en fait de faire un wallet pour des utilisateurs Web 2 qui fonctionne exactement comme la manière dont on s'inscrit sur une application Web 2, mais qui derrière a vraiment le compte argent avec toute la logique de ses guardians du recovery. Donc c'est vraiment de créer une expérience utilisateur qui paraît 100% Web 2, mais sur le Web 3. Et donc ça, c'est quelque chose qui est en fait déjà live sur certaines apps sur StarkNet. Donc j'invite les gens à aller essayer sur Brick. Ils peuvent aller sur brick.protocole, je pense, le site web, mais la app qui s'appelle Brick. Je vais vous donner un lien dans deux secondes qui permettra de les retrouver. Sur StarkNet ID aussi, sur AdNew, ça va bientôt arriver. Et donc, en fait, les gens peuvent se connecter avec un email et un mot de passe, tout simplement. Donc, c'est très, très simple. Top. Et donc, si les gens veulent explorer le monde StarkNet, on a fait un site web qui reprend la liste de toutes les dApps du monde StarkNet. Ça s'appelle dappland.com, donc dappland.com. Et si vous allez dessus, vous verrez en fait la liste de toutes les apps qui existent sur StarkNet. Et donc, ça permet justement d'utiliser ça pour commencer à explorer l'écosystème.
Bon, encore une fois, vous jouez votre rôle de démocratisateur de l'écosystème. Bon, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, pour toutes ces explications. C'était super clair, super intéressant aussi d'aborder la vision de quelqu'un qui a créé un portefeuille. C'est rare de le voir. C'est un sujet qui est super intéressant. En plus, vous développez sur des technologies émergentes, d'avenir, comme tu disais, les ZK, il y a de plus en plus d'utilisateurs qui s'y intéressent, et donc d'avoir de la vision de quelqu'un qui s'y intéressait un peu avant les autres, c'est aussi très intéressant. Donc merci pour ça, merci pour ton temps, et puis je te souhaite de profiter aussi de ta semaine à ETHCC, et on se reverra peut-être sur un de tes panels.
Avec plaisir, merci.
Merci beaucoup.
À bientôt.